Paul Valéry, Mauvaises pensées et autres, section B. Les littératures dites de décadence sont systématiques. Elles sont dues à des hommes plus savants, plus ingénieux et même plus profonds parfois que les écrivains antérieurs dont ils ont relevé tous les effets dénombrables, retenu, classé, concentré le meilleur en tant qu'il se peut saisir et isoler. Alors, dans des périodes de temps très courtes, on va se produire et même coexister des œuvres d'apparence très différentes qui sembleraient par leurs caractères extérieurs devoir appartenir à des époques très séparées. L'une est formée de naïvetés incomparables, jamais en défaut, plus enfantine que tout gosse réalisable. L'autre est le fait d'un sauvage ou d'un être tombé de je ne sais quel astre, ou privé ou augmenté de quelque sens. Tel auteur est si complètement métaphorique qu'il est impossible de discerner ce qu'il veut dire de l'expression qu'il en donne. Son idée est une image et il juxtapose une image de cette image si régulièrement que la symétrie est absolue, le sens indiscernable du signe. On ne sait de quel côté est le sens et duquel le signe. Ce développement de moyens tient d'une part à l'expérience acquise, à l'émoussement des sensations littéraires, à la grande variété des livres accumulés déjà, à la conséquence de ce grand nombre qui est de donner trop de prix à la nouveauté et de faire chercher à se faire entendre. L'impression générale est d'une cacophonie, d'un désordre qui fait pressentir la fin de toute littérature, un jugement dernier de toute rhétorique. La chronologie, l'évolution sont en déroute. Les procédés devenus conscients et réduits en opération permettent de former immédiatement, et dans un ordre quelconque, une graine, une feuille, une fleur. Et ces auteurs si divers sont infiniment voisins. Ils ont lu les mêmes livres, les mêmes journaux, suivi les mêmes lycées, et généralement eu les mêmes femmes. Voir à la fois les grands ouvrages et la poussière des petits dans le ciel intellectuel, voir coexister la constellation Égypte et celle Hellas et la Renaissance, comme nous le faisons, comme le permettent une bibliothèque, un musée, une tête érudite, et les vagues lueurs des choses disparues, soupçonnées, comme on voit à la fois un plafond des apparences célestes, des corps et des groupes d'âge énormément distincts. La rétine fait toute chose contemporaine. Pour un certain nombre d'amateurs, la lecture de poésie n'est jamais qu'un exercice de malveillance. Ils sont sûrs avec délice de trouver la bêtise, l'improbriété, la platitude que les difficultés de l'art disposent dans tout poème. Ils sentent combien la réussite continuelle est improbable. Tout poème est nécessairement ou exagéré, ou obscur, ou ridicule, ou indifférent par quelque endroit. C'est pourquoi les longs poèmes sont si vulnérables, comme tout ce qui est long, sans doute, mais avec plus de chances de dommages que tout autre genre de production. En France, on n'a jamais pris les poètes au sérieux. Il n'y a donc pas en France de poète national. Voltaire a failli l'être. Mais le poète est le personnage le plus vulnérable de la création. En effet, il marche sur les mains. Il est impossible de penser sérieusement avec des mots comme classicisme, romantisme, humanisme, réalisme. On ne s'enivre ni se désaltère avec des étiquettes de bouteilles. Une littérature dont on aperçoit le système est perdue. On s'intéresse au système et l'œuvre n'a plus le prix que d'un exemple de grammaire. Elle ne sert qu'à comprendre le système. La lecture des histoires et romans sert à tuer le temps de deuxième ou troisième qualité. Le temps de première qualité n'a pas besoin qu'on le tue. C'est lui qui tue tous les livres. Il engendre quelques-uns. Le naturalisme est une doctrine déterminée, n'a de sens que si l'on se fait fort de réduire à zéro la personnalité de l'écrivain. Je n'y verrai que des avantages, car je ne vois pas ce que vient faire dans l'art, c'est-à-dire dans mon plaisir ou dans mon émotion, ce qui me fait songer à quelqu'un. Son devoir, qui est son métier, est de disparaître, lui, son visage, ses amours et ses affaires. Nous ignorons tout des auteurs de très grandes œuvres. Shakespeare n'a jamais existé, et je regrette qu'il y ait un nom sur ses pièces. Le livre de Job n'est de personne. Rien ne fausse plus l'idée la plus utile et la plus profonde que nous puissions nous faire de la production humaine que le mélange d'un état civil, d'histoire de femme ou autre avec la considération intrinsèque d'un ouvrage. Ce qui fait un ouvrage n'est pas celui qui y met son nom. Ce qui fait un ouvrage n'a pas de nom. Si un parfumeur eût adopté l'esthétique naturaliste, quelles odeurs eût-il embouteillées? Le roman voit les choses et les hommes exactement comme le regard ordinaire les voit. Il les grossit, il les simplifie, etc. Il ne les transperce ni ne les transcende. La psychologie des romanciers ne dépasse pas ce que peut vérifier l'observation particulière accidentelle. Le roman exclut microscope et télescope, prisme et polarimètre. Quand donc il prétend au réalisme, il prétend s'en tenir à l'observation naïve et à ce que permet d'enregistrer de cette observation le langage ordinaire. Mais si le lecteur devient difficile, le langage ordinaire ne suffit plus à l'émouvoir. Le réaliste cherche alors à obtenir le trompe-l'œil par l'excessif du style. Goncourt, Huysmans, paresse. Un langage extraordinaire est appelé à suggérer des objets ordinaires. Il les métamorphose. Un chapeau devient un monstre que le héros réaliste, armé d'épithètes invincibles, chevauche et fait bondir du réel dans l'épopée de l'aventure stylistique. Faut-il être naïf pour apercevoir une différence entre un roman réaliste et un conte bleu? On dit aujourd'hui Napoléon et Stendhal. Mais qui eût dit à Napoléon que l'on dirait Napoléon et Stendhal? Qui eût dit à Zola, à Daudet, que ce très petit homme si aimable, si bien parlant, Stéphane Mallarmé, aurait pu, par ses rares petits poèmes bizarres et obscurs, plus ont une profonde, plus durable influence que leurs livres, leurs observations de la vie, le vécu, le rendu de leurs romans. Un diamant dure plus qu'une capitale et qu'une civilisation. La volonté de perfection vise à se rendre indépendante des temps, etc. Le souci naïf de la postérité avait ce grand effet de faire faire ce qu'on n'eût pas fait pour des hommes présents et trop connus et jugés ou jaugés. Il y a des efforts et des œuvres de patience dont on ne se sent pas capable pour des contemporains et leur durée. Il fallait l'illusion d'une perspective indéfinie, mirage qui engendrait les très grands hommes. Bien des choses autour d'eux, que ce regard accommodé à la fin des siècles rendait misérablement périssables, n'avaient point accès dans leur combinaison supérieure ni influence sur leurs ouvrages. Mais la précipitation est entrée dans le monde. Elle a tué la postérité. Avec celle-ci, un certain style. Combien d'œuvres modernes racolent, font le trottoir? Le besoin de nouveau est signe de fatigue ou de faiblesse de l'esprit qui demande ce qui lui manque, car il n'est rien qui ne soit nouveau. Beau titre pour un grand artiste, exécuteur de hautes œuvres. Conditions contrariées de l'artiste, état. Il doit observer comme s'il ignorait tout. Il doit exécuter comme s'il savait tout. Aucune connaissance dans la sensation, mais aucune ignorance dans la transformation. Les optimistes écrivent mal. X est une force de la nature. Mais ce qui caractérise les forces de la nature, c'est la déperdition. Z, c'est des habits dans le génie, tel qu'on le figure génie dans les esprits vulgaires. Il interpelle, foudroie, extermine, se promène à grands pas dans la petite chambre de son esprit. Il ne voit que ses pas, mais non la petitesse de la chambre. Écrivain sonore, violent, un homme tout seul dans sa chambre jouant du trombone. Un écrit forcené, chargé d'invectives, comme ivre de violence et riche d'épithètes et d'images foudroyantes, me donne une idée invincible de sourire. C'est que je ne puis m'empêcher de voir l'écrivain se rasseoir à telle heure à sa table et reprendre le fil de sa fureur. Humanisme. L'Himalaya m'assomme, la tempête me fatigue, l'infini m'endort, Dieu est trop. Bon, Hugo est un milliardaire, c'est pas un prince. C'était une ville de rêve. Ah, il ne s'agit donc pas d'architecture? Littérature. On y voit des sauvages qui se font imprimer, des loups-garous qui corrigent leurs épreuves, des dragons crachant la flamme, qui font un service de presse. Tout ceci aussi naturel que leurs fonctions les plus naturelles. Aujourd'hui, ce qui est parfait retarde. L'âge fait que l'on finit par pouvoir écrire des choses assommantes. Je remarque dans tous les arts, et particulièrement dans celui d'écrire, que l'intention de causer quelques plaisirs le cède insensiblement à celle d'imposer une certaine idée de l'auteur. Si une loi de l'État obligeait à l'anonymat et que rien ne pût paraître sous un nom, la littérature en serait toute changée, en supposant qu'elle y survécût. Apologétique. Voici à quoi sont consacrés les écrits les plus importants. Tu n'aimes pas ce que tu aimes? Tu aimes ce que tu n'aimes pas? Tu n'es pas ce que tu es, et réciproquement. Homo scriptor. Je regarde la mer en furie, et le dictionnaire caché, tapis dans lettres de lettres, veut à chaque plus gros coup jouer par les lames ou les nues, et gagner par les yeux, lâcher un vol de mots dans la région sensible où passe dans la lumière spirituelle ce qui se fait articuler et écrire. À chaque instant, un événement verbal veut répondre à l'événement physique et visuel et faire passer quelque chose du temps quelconque dans le temps organisé, celui des actes. Une idée juste que l'on a depuis longtemps fatigue. Sa justesse la fait revenir et ce retour la rend vieille et radotage. Elle devient insipide et par là excite la formation d'une idée moins juste et même fausse sur le même objet, et même très fausse, mais fraîche et vive. L'époux d'une très belle femme, après des années qu'il la goûte, il arrive qu'une lettre l'inspire. Oh, c'est aussi l'histoire simple de toutes les révolutions dans l'art, et sans doute dans la politique.